Vous trouvez dans votre Bible la première épître de Paul et le chapitre 3. En Corinthiens 3. Une mauvaise conception du leadership chrétien est grave. L'apôtre Paul doit corriger une très mauvaise conception du leadership chrétien dans l'église de Corinthe. Nous avons déjà vu que les gens disent « Je suis d'Apollos, je suis de Paul », on se vante des hommes, et nous allons découvrir un peu plus du problème, mais c'est un problème que vous avez aussi, que notre église a sans doute dans une certaine mesure, parce que c'est la maladie de l'homme dans son péché, de vouloir exalter les âmes et de ne pas voir qui est Dieu et combien il est unique. Le problème d'une fausse vue d'autorité dans l'Église est très grave, parce que votre perspective sur l'autorité dans l'Église reflète votre perspective sur l'autorité de Dieu. Et ça veut dire que votre perspective, votre image des leaders chrétiens, qui est le reflet de votre image de Dieu et comment il est leader, va complètement former votre compréhension de la spiritualité, de ce que c'est que marcher avec Dieu sous son autorité et devenir comme Dieu. Donc, c'est extrêmement important. Et nous pouvons avoir une vue du leadership chrétien qui est à peu près païen ou complètement païen. Vous vous rappelez que nous avons lu dans cet épître, au premier chapitre, que Paul a dû dire « Est-ce que Paul a été crucifié pour vous ? Est-ce que vous avez été baptisé au nom de Paul ?» C'est une manière de dire « Est-ce que je suis Seigneur ? Est-ce que vous êtes tellement païen dans vos pensées que vous faites des hommes, des petits seigneurs à la place de Jésus-Christ ?» Et c'est ce qui arrive dans les églises qui se disent évangéliques aujourd'hui. Il y a plein d'églises dans ce monde où les leaders sont exaltés. Et ces églises prétendent être les plus spirituelles. Mais elles sont les moins spirituelles, je vous dis. Devant la face de Dieu, je vous le dis. Et ils ont une spiritualité qui est anti-évangile. Anti-évangile. C'est un désastre pour ces petits dieux qui sont les leaders dans ces églises. Et c'est un désastre pour ceux qui les suivent. Parce qu'en suivant des hommes, en ayant tellement d'admiration et tellement de respect pour les âmes, ça veut dire que ce n'est pas pour Christ que cette admiration, vers Christ que cette admiration et ce respect s'en va. Et je vous assure que c'est comme cela. Quand vous rencontrez une de ces personnes, il va parler en long et large de tout ce que son pasteur a fait au fil des années. Mais il ne va presque pas vous parler de Jésus-Christ. Il y a le problème contraire. Il y a des gens dans les églises qui ne veulent avoir aucun respect pour leur pasteur. Là, ils sont des rebelles. Ils ne veulent écouter qu'eux-mêmes. Ça, c'est un autre problème. Mais ce n'est pas le problème que nous allons voir aujourd'hui. Parce que ce n'était pas le problème à Corinthe. Et ça nous suffit un seul problème pour aujourd'hui. Donc, nous allons lire notre passage et nous allons voir la perspective biblique sur les leaders dans l'Église. Nous lisons à partir du verset 5b. Je vais peut-être lire tout le verset 4 juste pour avoir le contexte. « Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul » et un autre « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des âmes ou des simples âmes, qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, c'est-à-dire des esclaves, des doulos, des esclaves, par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui est quelque chose, qui fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vraiment, le mot grec, il vaut mieux le traduire. Nous sommes ouvriers ensemble l'un avec l'autre. Nous sommes ouvriers de Dieu les uns avec les autres. Nous ne sommes pas des ouvriers avec Dieu comme si Dieu était un ouvrier et nous aussi. D'accord ? La traduction nous égare un tout petit peu. Donc, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Il pense aux leaders qui sont à Corinthe maintenant. Un autre. Il ne va pas donner des noms. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, première catégorie, ou deuxième catégorie, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour du jugement la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu du jugement. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun, de chaque leader, de chaque enseignant dans l'Église. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, le leader, recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un, un enseignant dans l'Église, est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il parle maintenant à l'Église, pas au leader. Si quelqu'un, donc un leader, un prédicateur, détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Il parle au leader maintenant. Si quelqu'un pense être sage, être un enseignant, être le... Car la sagesse de ce monde est une folie de Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie. Et encore, le Seigneur connaît le raisonnement des sages, il sait qu'ils sont vains. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Voilà, point principal. Car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses précieuses. Il s'emporte un peu, comme il a l'habitude de faire, il se laisse aller un peu. Soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous, l'Église. Et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Premier point. Les leaders ne sont que des serviteurs et des instruments de Dieu. Alors, remarquez avec moi une chose importante au début. Remarquez que dans un premier temps, dans les versets 5 à 9, Paul va parler de qui sont vos leaders vis-à-vis de Dieu. En rapport avec Dieu, comment est-ce qu'il faut voir un prédicateur, un pasteur chrétien ? Et deuxièmement, dans les versets 10 et suivants, il va dire qui sont les mêmes leaders par rapport à vous, par rapport à l'Église. Maintenant, regardez qui fait ces deux différences. Donc, dans les versets 5 à 7, donc il dit qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen de qui vous avez cru selon que le Seigneur a donné chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, celui qui arrose, mais Dieu. Vous voyez la différence, le contraste est entre les serviteurs et Dieu. Ce n'est pas les serviteurs qui sont quelque chose, mais Dieu. Okay? Mais il change après cela. Et dans les versets suivants, à partir du verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée comme un sage architecte, etc. J'aurais dû remonter juste un tout petit peu. Je lis le verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur. Regardez ceci, verset 9. Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Remarquez la comparaison, et nous sommes, vous êtes. Maintenant, ce n'est pas le rapport entre le serviteur et son Dieu, c'est qui est le serviteur par rapport à l'Église. Nous sommes, nous les leaders, nous sommes les ouvriers, les bâtisseurs, vous êtes l'édifice et le champ. Okay? Nous allons voir pourquoi il est important pour vous de regarder bien vos pasteurs, vos leaders, dans leur rapport à Dieu et dans leur rapport avec vous-même. Parce que là, vous serez calés. Okay? Donc, on va commencer avec le rapport des leaders vis-à-vis de Dieu. Alors, nous lisons donc dans ce verset 5, qu'est-ce que donc Apollos, qu'est-ce que Paul? C'est ça la question aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'un leader chrétien? Quelle est son identité? Et d'abord vis-à-vis de Dieu. Des serviteurs par le moyen desquels? Par le moyen, ils sont des moyens de qui? De Dieu. Ok. Vis-à-vis de Dieu, le pasteur, votre leader, n'est rien d'autre qu'un instrument. C'est tout. Cela est d'une importance capitale. Et nous allons voir pourquoi dans la pensée de Paul. Il dit, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Ça veut dire que si un pasteur, un leader chrétien a eu un impact dans votre vie, a été une bénédiction dans votre vie, ça c'est parce que le Seigneur lui a donné comme un cadeau de pouvoir avoir cet effet sur vous. Le pasteur chrétien ne peut rien accomplir dans votre vie, sauf si le Dieu qui fait tout et sans qui rien n'est fait, sauf si ce Dieu lui avait donné de faire ça dans votre vie. D'accord? Et quand nous allons loin, plus loin, il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais, voilà le contraste, Dieu a fait croître. Quelle est la différence entre ces deux? J'ai planté, Apollos a arrosé. Dieu a fait croître. Vous voyez une grande différence. Les hommes font des actions, Apollos arrose, Paul plante, mais Dieu produit un effet. D'accord? Il fait croître. D'accord? Et là, il faut comprendre que tout effet véritable dans ta vie, ce n'est pas le serviteur qui l'a fait. Il a fait une action, mais cette action aurait été vide si Dieu lui-même n'était pas derrière en train de produire donc l'effet. Tout comme le fermier, il peut planter, il peut arroser, mais il ne peut rien faire pour qu'il y ait de la vie dans cette semence qui pousse. Il ne peut même pas entrer dans cette zone. D'accord? Donc, regardez bien vos leaders. Ce n'est qu'un outil dans la main de celui qui fait tout pour toi. Il dit dans le verset 7, « Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu. » Vous voyez? Combien ça bouleverserait la vie de beaucoup de chrétiens s'ils commençaient à voir les choses comme ça. Littéralement, c'est plus fort que ça. Littéralement, il ne dit pas, c'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose. Il dit, ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est rien. Il dit, plus exactement en français, et celui qui arrose, et celui qui ne sent rien. Mais Dieu. Qui fait quelque chose, et celui qui est quelque chose. Maintenant, attention, je ne regarde pas mon pasteur et je ne dis pas dans tous les sens, il n'est rien. Nous ne parlons que dans un domaine, sous un rapport, sous le rapport de d'où vient l'impact dans ma vie. Pourquoi est-ce que ça m'a changé quand il m'a enseigné, quand il m'a parlé? Il y a, là, on dit, le pasteur n'y est pour rien. D'accord? Dieu l'a fait par lui. Nous sommes serviteurs par le moyen duquel Dieu fait croître. Vous êtes sans doute allé à une foire, au moins une fois où vous l'avez vu dans un film, où il y a cette grande masse, marteau, hein, qui est là, et donc il y a un plateau qu'il faut taper pour faire monter une pièce en métal qui va aller sonner une cloche. Vous avez vu ça? Et vous essayez de faire monter. C'est difficile de faire monter la pièce jusqu'à la cloche, mais tous les grands, ils veulent essayer, n'est-ce pas? Mais regardez cette masse, ce marteau. Quand il est juste là, posé sur le plateau, il n'a aucun effet sur cette pièce métal qui doit monter. Le marteau en lui-même n'a aucune puissance pour faire monter la pièce. C'est seulement la personne et sa puissance quand ce marteau devient un moyen. Tout dépend de la puissance. Et quand le petit bonhomme de 8 ans vient, ça fait et quand le grand bonhomme qui passe sa vie dans la salle de muscu vient, quelle est la différence? C'est la même masse, c'est le même marteau. Le marteau n'a rien à faire avec la distance que monte la pièce. C'est celui qui le tient. Et donc, nous devons comprendre cela par rapport au serviteur de Dieu. Nous lisons maintenant, donc par rapport à Dieu et son impact, nous ne sommes que des instruments que Dieu choisit comme il veut. Comme il veut. Les versets 8 à 9. Les chrétiens sont aussi des, par rapport à l'Église maintenant, les chrétiens sont des ouvriers. Et c'est une notion très différente. Regardez, verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre labeur, car nous sommes ouvriers, un mot différent, pas serviteurs, mais ouvriers de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. D'abord, le premier verset est paradoxal. Vous l'avez vu? Qu'est-ce que tu veux dire, Paul? Il dit, celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un, mais chacun recevra sa propre récompense. Est-ce que c'est uni ou est-ce que c'est individuel? L'action est unifiée, mais ça ne veut pas dire que chacun n'est pas responsable pour son travail. Les deux sont vrais. Ok? Et nous allons voir ça tout à l'heure. La première chose, celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos pasteurs chrétiens, vos prédicateurs qui viennent ici en visite ou qui sont dans l'église ou quand vous aurez un conseil d'anciens dans l'avenir, ces hommes ne sont pas des agents indépendants les uns des autres. D'accord? De sorte que vous puissiez comparer, contraster et dire « Ah, lui, il est mieux que lui. » Je suis d'accord que dans un sens humain, vous pouvez le faire, mais ne descendez pas jusque-là. Soyons plus spirituels que cela. D'accord? Paul est en train de dire que, en fait, le travail chrétien est très très différent que cela. Alors, dites-moi, quand vous marchez, il vous faut combien de jambes, vous les humains? Il vous faut deux jambes, n'est-ce pas? Maintenant, quand vous marchez avec les deux jambes, est-ce que les deux jambes fonctionnent comme deux agents complètement indépendants, de sorte que vous pouvez dire « Ah, je préfère marcher avec ma jambe droite. » Ou bien, est-ce que les deux jambes ne font qu'un quand vous marchez? De sorte que c'est, en réalité, c'est deux membres, mais c'est un agent. Parce qu'ils marchent tellement ensemble qu'il n'y a qu'une action, marcher, n'est-ce pas? Une action qui est accomplie. J'accomplis une action ici, pas deux. Et les deux membres ne font qu'un parce qu'il est impossible de marcher avec une jambe. Je peux sauter avec une jambe. Mais je peux faire une action unique, marcher avec une action unifiée de deux agents, mes jambes. Et dans le ministère chrétien, c'est exactement comme ça. Vous ne pouvez pas avoir une église avec un seul agent. Vous allez voir que quand cette église se développe, Dieu va donner des jambes et des bras. Et il y en a déjà, mais ça va se manifester pleinement. D'accord? Et Paul dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Tu ne peux pas avoir une plante juste en plantant. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui arrose, sinon celui qui plante n'accomplit rien. D'accord? Donc mon travail dépend de son travail. Et ensemble, ça devient quelque chose. Donc c'est ça que Paul veut dire. Que Paul, vous préférez Apollos? Apollos ne peut rien faire parce qu'il ne plante pas. Il ne fait qu'arroser. Et donc, mettre l'un contre l'autre, c'est dire que j'aime marcher mieux avec ma jambe droite ou gauche. Ça n'a pas de sens dans la réalité spirituelle. Paul et Apollos sont en train de faire une seule chose, bâtir une église et l'édifier. Maintenant, c'est vrai que Paul ne veut pas qu'on se méprenne. Vous pourriez dire, ben, puisque vous ne font qu'un, on va faire comme dans certains groupes à l'école, quand on fait un travail en groupe, il y en a toujours un qui fait presque rien, n'est-ce pas? Oh, c'est tellement irritant, n'est-ce pas? Et donc, pourquoi? Parce qu'il dit, je ne serai pas sanctionné parce que c'est la note collective que j'aurai. C'est très bien fait, n'est-ce pas? Mais Dieu veut dire, ça n'existe pas dans le ministère chrétien. Vous faites ensemble, mais vous serez noté seul pour votre contribution. Et nous allons y revenir tout à l'heure parce que cela a une grande importance dans votre manière de voir vos pasteurs. Okay? Mais pour le moment, nous voulons comprendre qu'est-ce que les pasteurs, les leaders, les enseignants sont vis-à-vis de vous. Et la première chose que nous avons dit, c'est que ils ne sont pas des agents que vous pouvez rivaliser les uns contre les autres parce qu'ils ne font qu'un. Mais la deuxième chose qu'il faut dire, c'est dans le verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alors, attention, arrêtez, faites une petite pause là parce qu'il y a, quelque chose de très important. Un ouvrier, c'est quoi? Sur un champ de... Quand on bâtit un édifice, puisque c'est sa métaphore, un ouvrier, c'est le boss, c'est le patron? Non. Un ouvrier, c'est quoi? Si nous allons construire un magnifique temple qui va être renommé pendant des siècles, qui va être un endroit très important, avec une grande importance, qu'est-ce qui est plus important? L'édifice ou un des ouvriers qui a contribué à le construire? C'est ça qu'il veut dire. Vous êtes des ouvriers. Vous êtes que des ouvriers. Nous sommes que des ouvriers. Vous êtes l'édifice. Il est en train d'inverser, bouleverser complètement la conception du leadership. Parce que dans le monde, chers amis, comment est-ce que ça se passe? Qui est important? Le peuple ou le roi? Je sais qu'on dit que c'est la République qui est importante pour les présidents, mais je vous dis qu'en réalité, c'est les présidents qui sont importants. N'est-ce pas? Et quand il y a de l'autorité exercée dans ce monde, il est plus que fréquent que les leaders sont vus comme les gens qui ont de l'importance. Les grands chefs des grandes entreprises. N'est-ce pas? On connaît leur nom. On connaît leur nom. Mais Paul est en train de dire, dans l'Église, on ne connaît pas leur nom. Parce que c'est l'édifice qui est quelque chose. Au lieu que l'Église dise « Moi, je suis de Paul ». Ça devait être le contraire. Ça devait être Paul et Apollos qui disent « Moi, je suis de l'Église de Corinthe ». Vous voyez la différence? Ce n'est pas l'homme qui est important, c'est l'Église de Dieu. Donc, dans la suite, nous avons appris tout à l'heure que chacun recevra sa propre récompense selon son œuvre. Parce que quand vous êtes ouvrier sur un champ, vous êtes redevable, n'est-ce pas? Vous êtes responsable. Et comment est-ce qu'on va vous juger? On va vous juger selon la manière dont le bâtiment, enfin là, ce que le bâtiment devient, vous allez payer. D'accord? Parce que c'est l'édifice qui est important. Et vous allez être jugé selon la manière dont vous traitez l'Église de Dieu, si vous êtes leader. Alors, ça rabaisse les leaders, n'est-ce pas? Ils vont passer par un jugement plus sévère que vous, dit le Nouveau Testament. Parce que c'est vous qui êtes important. Maintenant, les versets 10 à 17. On va commencer avec 10 à 11. Et nous allons maintenant voir ce jugement. Comment est-ce que les leaders chrétiens seront jugés dans le jugement final? Et c'est important pour nous de les voir comme des personnes redevables. Et pas, ils ne sont pas des juges. Ils sont des gens qui seront jugés et qui doivent être fidèles. Ça change tout. Ok, le verset 10 à 11. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. » À Corinthe. D'accord? Un autre bâti dessus. Il n'est plus à Corinthe, Paul. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Maintenant, attention, Paul n'est pas en train de se vanter. Il dit « J'ai travaillé comme un sage architecte ». Mais il est en train de défendre son œuvre apostolique parce qu'il veut défendre le fondement qu'il a posé. Il veut défendre Jésus-Christ et l'Évangile. Et donc, il est en train de dire en quelque sorte « Personne chez vous à Corinthe ne peut venir maintenant derrière moi et poser un autre fondement que celui que j'ai posé, qui est Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le seul Rédempteur. » Parce qu'en faisant ce travail, je l'ai fait comme il fallait. C'est tout ce qu'il est en train de dire. D'accord? Maintenant, il arrive à son vrai point, qui est de dire, comment est-ce que vous allez bâtir dessus? Et c'est là tout le problème dans l'église de Corinthe. Parce qu'ils sont en train de dévier l'édifice. D'accord? Donc, il est en train d'insister que le fondement, le bon fondement, c'est l'évangile apostolique. C'est tout. Est-ce que vous êtes sur ce bon fondement? Parenthèse de 1 minute et 23 secondes. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est le Seigneur Dieu incarné. Il est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par lui. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et personne d'autre ne l'est. Vous ne pouvez rien avoir et rien vivre sauf par ce Dieu fait homme, fait agneau de Dieu, fait ressuscité, fait Seigneur des Seigneurs. Il est de l'alpha à l'oméga, toute votre vie chrétienne et tout votre salut. Vous ne pouvez rien faire sauf si ce soit parce que vous avez Christ pour vous à la croix et Christ en vous dans la vie chrétienne. C'est tout. Maintenant, avec ça, vous pouvez aller loin. Mais tout le reste qui est bâti dessus doit être en ligne avec ça. Un fondement évangélique demande une structure évangélique qui est bâtie dessus. Okay. Les étages ne peuvent pas être non évangéliques. Ça doit être en ligne avec l'évangile du début. Et c'est ça le problème à Corinthe. Paul a posé un évangile de la croix. De la croix de Dieu qui s'humilie et qui devient homme. Eux, ils ont une spiritualité. Leurs enseignants veulent bâtir maintenant une spiritualité qui dit « Soyons quelque chose ». alors que Dieu ne devient rien, devient un rien pour nous. On se vante, on s'élève par nos dons, et ils sont en train de faire un anti-évangile sur le fondement de l'évangile. Donc nous lisons dans les versets 12 à 13. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifeste, car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Première chose. Ici, nous avons deux éléments de construction. Pas six, il y a six choses mentionnées, mais c'est juste pour donner une bonne métaphore. Nous avons des éléments de construction durables, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Des choses qui peuvent passer par un feu et ils perdurent. Et nous avons du bois, du chaume, du foin. Ça, c'est des choses qui ne sont pas durables. Ça passe par un feu, c'est complètement anéanti. Vous pouvez avoir des enseignants dans une église chrétienne qui essaient de bâtir sur un vrai fondement auprès des vrais chrétiens avec du bois, du chaume et du foin. Ça, c'est des choses qui ne sont pas en ligne avec l'évangile. Ça, c'est des choses qui mettent l'homme au centre, qui disent que l'homme et son libre volonté, c'est la clé du salut et de la sanctification. C'est comme si Dieu n'est pas la clé. Vous avez des gens qui essaient de bâtir dessus dans les églises évangéliques aujourd'hui, par de la psychologie humaine, tout simplement. Donc des techniques qui n'ont pas besoin de Jésus-Christ. Pas de sa présence, pas de son action, pas de son enseignement, pas de son exemple, rien. Vous pouvez oublier Jésus un moment et appliquer cette technique. Et ça, c'est du foin. Et vous avez des gens qui essaient de bâtir sur le fondement dans certaines églises évangéliques avec un enseignement comme à Corinthe, où ils disent que ce qui importe, c'est les dons, c'est la puissance, c'est les manifestations. Et tout cela devient tout simplement un égoïsme spirituel. Parce qu'on aime les choses grandes pour être grand. Alors que c'est dans la vie chrétienne, ce qui est grand, ce n'est pas que tu puisses faire telle chose impressionnante. C'est que tu penses à l'autre. Tu te préoccupes de ses besoins et tu te mets à lui laver les pieds. C'est ça qui est incroyable. C'est ce service aimant. Donc, nous pouvons voir que dans les églises évangéliques, on peut vraiment bâtir avec des éléments qui ne sont pas du tout en ligne avec l'évangile du début. Maintenant, il dit dans le verset 3, l'œuvre de chacun sera manifeste car le jour la fera connaître. Alors, il est en train de nous faire tilt un peu. Quelle est la différence entre un vrai leader chrétien et un leader qui dévie? La différence, c'est que le vrai leader chrétien travaille pour demain. Il a son œil dans ce qu'il fait sur l'éternité. Alors que le faux leader, il travaille pour aujourd'hui. Il veut sa récompense ici, ici-bas et maintenant. Il veut du chiffre et il veut du renom ici. Il veut que quelque chose arrive ici qui lui donne sa récompense. Ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Parce que dès que vous avez une petite église, cet homme va péter un plomb. N'est-ce pas? Parce qu'il veut maintenant. Alors que le texte nous dit, c'est le jour. C'est le jour qui montrera. C'est pas le chiffre maintenant. C'est pas juste l'effet visible maintenant, il y a des choses invisibles qui sont en train de passer dans vos vies. C'est seulement le jour qui le fera connaître. Et le vrai leader ne veut pas cet éclat d'aujourd'hui. En d'autres termes, c'est pas au sujet de moi. Si c'était au sujet de moi, il faut que ce soit une réussite visible. J'appelle les églises qui me soutiennent. Nous sommes 322 maintenant au culte. N'est-ce pas? Si c'est au sujet de moi, il faut que j'ai quelque chose ici et visible. Si c'est au sujet de vous et l'œuvre de Dieu dans votre vie, ça peut bien être invisible jusqu'au jour. Au moins en partie. Il y a toujours une partie visible. Bien sûr, on voit les gens changer, mais on ne voit pas tout. Donc, quand vous avez de l'or, de l'argent, quand vous avez quelqu'un qui vous enseigne sur la base de la sainteté de Dieu, de ce Dieu grand et transcendant et trois fois saint, ce Dieu souverain qui sauve qui il veut et qui endurcit qui il veut, la vérité d'un enfer éternel parce qu'il est Dieu et pécher contre Dieu n'est pas n'importe quoi. Un enseignement qui n'a pas peur de vous parler de la repentance, de l'enfer, de la sainteté, de la grâce, de la souveraineté, de tout ce que la Bible dit. À Dieu seul la gloire, l'Écriture seule est notre règle, Jésus-Christ seul est le Seigneur, nous sommes sauvés et justifiés par la foi seul. Quand vous avez quelqu'un qui vous parle comme ça, il bâtit sur l'Évangile avec l'Évangile. Et c'est de l'or. C'est de l'or dans votre vie, dans la mesure où vous l'acceptez. Dans la mesure où vous suivez, vous acceptez que ce soit ça que vous croyez et qui vous bâtit. Maintenant, dans les versets 14 à 17, si vous pouvez, je vais essayer d'aller rapidement maintenant. On va voir cette récompense. Lisez avec moi parce que c'est un passage que beaucoup de gens comprennent très mal. Ils pensent que c'est un passage qui a à faire avec vous, vous tous. Or, c'est seulement adressé aux enseignants dans l'Église. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, qui sont les bâtisseurs? Qui sont les ouvriers qui bâtissent l'Église? Ce n'est pas vous tous, c'est les enseignants. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense, cet enseignant ou ce pasteur. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée par le feu du jugement, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Il est possible qu'un pasteur chrétien soit à peine sauvé. Pas la récompense pour son travail. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Première chose, ce passage ne parle pas de tous les chrétiens et leurs bonnes œuvres. Ce passage parle uniquement des pasteurs et des enseignants chrétiens et leur œuvre d'enseignement. D'accord? Deuxièmement, ce passage ne parle pas de faux enseignants, de faux pasteurs qui ne sont même pas chrétiens. Ça parle de vrais pasteurs chrétiens parce qu'il dit « il sera sauvé ». Ça veut dire qu'il y a des enseignants et des pasteurs dans ce monde qui croient l'Évangile, croient sur le fondement, ont peut-être même posé sur le fondement, mais dévient dans la manière dont ils veulent édifier des gens déjà sauvés. Et je pourrais vous donner mille exemples. Mille exemples. Si j'étais mort 10 ans après ma conversion, le feu aurait brûlé presque tout ce que j'ai fait en tant que missionnaire. Parce que je bâtissais sur le vrai fondement et j'étais sauvé, mais je bâtissais avec un enseignement qui était bancal. Maintenant, il est possible que quelqu'un bâtisse avec un mauvais matériel parce qu'il n'est pas chrétien. Et c'est pour cela qu'il dit dans le verset 17, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, l'Église, Dieu le détruira. Ah, lui, il n'est pas sauvé comme au travers du feu, il est détruit par le feu. D'accord? Donc, soyons clairs. Mais nous lisons maintenant dans les versets 18 et 20, et s'il y a des pasteurs futurs ici, voilà une parole pour vous, parce que Paul s'adresse aux, à ceux qui baptisent l'église de Corinthe, baptise mal maintenant. Il dit ceci, que nul ne s'abuse lui-même si quelqu'un parmi vous, ah, il est délicat, hein, il ne donne pas des noms, si quelqu'un parmi vous, les enseignants à Corinthe, pense être sage selon ce siècle, qui devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur... ça fait mal. Fourberie. Et encore, le Seigneur connaît les... raisonnements des sages. Ça nous montre que les vrais pasteurs chrétiens qui baptisent mal ne le font pas simplement par une innocence de manque d'informations. Il parle de fourberie, il parle de raisonnement. Et je dois avouer qu'il y a une part d'ignorance chez certains, mais quand je réfléchis sur mon passé, j'ai gobé ce qu'on m'enseignait et je l'ai transmis aux autres sans vraiment vérifier et aller au fond dans l'écriture moi-même. Et il y avait même des choses que j'enseignais qui ne marchaient pas dans ma vie. Je savais que ça ne marchait pas. Mais je l'ai cru quand même parce que j'étais orgueilleux et je voulais croire que je pouvais être meilleur dans cette vie que la réalité. J'enseignais une sorte de perfectionnisme où le chrétien pouvait presque marcher sans péché. Et ça, c'était parce qu'il y avait quelque chose dans mon cœur qui voulait que ce soit ainsi. Je dois l'avouer maintenant. Et donc, Paul est en train de dire, si vous pensez être sage avec des raisonnements humains, avec des trucs humains, ben, devenez fou. Revenez à l'évangile. Acceptez cette folie de l'évangile qui vous met à votre place. La dernière chose que nous devons dire, c'est dans les versets 21 à 23. Ceux qui suivent les leaders ne doivent pas mettre leur gloire dans les leaders. Regardez ces versets parce qu'ils sont fantastiques. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes, car tout est à vous, soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir, tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Il arrive au nœud du problème là. Et je vous exhorte. Ne mettez aucune gloire dans les hommes. Nous qui sommes pasteurs, nous sommes de simples pécheurs, exactement comme vous. Et Paul transforme leur propre slogan. Vous vous rappelez de leur slogan ? Moi je suis d'Apollos, moi je suis de Paul. Vous avez vu le verset ? Que ce soit Paul, soit Apollos, soit Cephas, ils sont à vous. C'est pas vous qui êtes à eux. C'est eux qui sont à vous. Vous voyez qu'il est en train de changer complètement les membres de l'Église n'appartiennent pas à leur pasteur, comme dans le monde. Les pasteurs appartiennent aux Églises. Et il dit, tout est à vous. Que ce soit Paul, que ce soit Apollos, que ce soit Cephas. Écoutez-moi bien. L'Église qui exalte les hommes, divise ces hommes. Quand tu exaltes un leader, tu écartes un autre. D'accord ? Parce qu'il n'a pas la même place. Donc tu le résignes à une place inférieure. Et ça veut dire que tu es capable d'écouter avec plaisir celui-ci, mais plus celui-là. Ils sont en train de se priver de certains des dons, de plein de dons de l'Église. Ils ne peuvent plus bénéficier du ministère de Paul, de Cephas, parce qu'ils sont tellement attachés à Apollos. Mais Paul dit, que c'est bête, tout est à vous. Les dons d'Apollos, les dons de Paul, les dons de Cephas. Normalement, vous auriez dû bénéficier de tout cela. Et vous avez divisé et vous vous êtes privé ainsi. Vous êtes cantonné à un homme et ses dons. Ah, dommage pas. Vous vous êtes abaissé tellement, c'est incroyable. Remontez-vous à la place qui est la vôtre, comme l'Église. À vous, la vie, la mort, les choses présentes, les choses à venir, et tous les dons de Dieu dans tous les leaders, tout vous appartient. Donc vous ne pouvez pas exalter les hommes parce que c'est vous qui êtes propriétaire de tout. C'est incroyable l'évangile, n'est-ce pas? Ça change complètement notre manière de voir. Et quand nous avons cette idée, c'est une idée qui unifie, n'est-ce pas? Paul et Apollos ne font qu'un pour nous. Ils sont tous à nous. Et nous, notre gloire, ça devient quoi? Si notre gloire n'est pas Apollos ou Paul, notre gloire, c'est vous êtes et vous êtes à Christ. Et Christ est à Dieu. Ce n'est pas ce qui vous appartient comme un leader humain. C'est celui à qui vous appartenez qui est votre gloire. Vous voyez? Est-ce que c'est votre gloire, le fait que vous êtes à Christ? Et qu'en lui, tout est à vous. Que le Seigneur nous dirige et nous aide à avoir une pensée vraiment biblique. Nous allons laisser la place à Epaphras pour terminer.